Vous écoutez, on lit pour vous.
La centième émission de L'heure où l'arc-en-ciel se lève. Un texte d'André Constantin Passiour, paru le 30 janvier 2025 dans le magazine Fugue. Le 20 janvier dernier, Denis Martin Chabot, concepteur et animateur de L'heure où l'arc-en-ciel se lève, célébrait déjà le centième épisode de cette émission de radio web diffusée sur le canal M. Tout un parcours pour cette émission d'actualité LGBTQ+. Denis Martin Chabot a marqué ce tournant sans tambour ni trompette en réunissant les moments les plus forts de l'émission. Une fois par semaine et durant une heure, le lundi après-midi, on peut faire le tour de l'actualité par le biais de cette émission. On peut y discuter de sujets importants comme l'héritage queer de Justin Trudeau après l'annonce de sa démission, ou encore des personnages queer dans la littérature avec les auteurs Patrick Sénécal et Philippe Aubert-Côté. On parle des enjeux importants pour nos communautés. On essaie de suivre l'actualité d'ici et d'ailleurs autant qu'on le peut, d'expliquer Denis Martin Chabot. Nous avons tout un réseau de chroniqueurs francophones de partout dans le monde. Mais on suit l'actualité selon une vision queer, comme de suivre la démission et la succession de Justin Trudeau d'un point de vue queer. Le tout avec des intervenants intéressants. C'est un beau défi que de faire ça chaque semaine. On travaille très fort. On fait de la recherche fouillée. Je suis avec le recherchiste Gaudéric Traub, qui m'appuie ici. Nous sommes rigoureux dans notre travail. Les sujets sont sérieux, mais on le fait aussi de manière amicale, plus détendue avec les invités, sinon ce serait rébarbatif. Mais je ne fais pas dans la supposée objectivité. On va dénoncer aussi les fake news, etc., qui concernent la communauté LGBTQ+, dit Denis Martin Chabot. Avec des discussions et des chroniques parfois très sérieuses sur la santé et le bien-être, par exemple, parfois plus légères ou humoristiques, l'heure où l'arc-en-ciel se lève cherche à satisfaire un public LGBTQ+ le plus large possible. On fera une belle place à la culture, aux artistes, à la musique, aux livres aussi, mais sans jamais compromettre sa mission. Nous avons eu une émission sur le Noël bienveillant, sur les parties de famille. Comment passer à travers ceux-ci lorsqu'on est LGBTQ+, s'interroge Denis Martin Chabot. Comment bien vivre ces moments où il peut y avoir des jokes sur les LGBTQ+, des sous-entendus qui deviennent, à la longue, ce qu'on considère maintenant comme étant des micro-agressions envers ces personnes-là qui peuvent vivre des malaises. Récemment, à Tout le monde en parle, sur Radio-Canada, on avait invité des masculinistes aux idées assez carrées, disons, selon lesquelles l'homme a préséance sur la femme, pour ne dire que ça, et qui véhiculaient aussi des stéréotypes éculés sur les LGBTQ+. Est-ce qu'on pourrait faire ça à l'heure où l'arc-en-ciel se lève? On peut avoir des invités aux idées divergentes, et on en a d'ailleurs. Et l'on discutera et débattra. Mais je n'irai pas demander à des masculinistes de venir à l'émission pour une heure, où on va tourner en rond, ce qui ne donnera rien au bout du compte. Nous sommes là pour défendre nos communautés. Cela a toujours été notre but, de souligner Denis Martin Chabot. À 63 ans, je pourrais m'asseoir et regarder la TV et m'occuper de mon chien, mais je ne suis pas capable de rester sans rien faire. Je ne prends pas cette émission à la légère. Je suis très fier de l'émission, de l'avoir portée au point où elle est maintenant, avec tous ses collaborateurs, avec les invités, etc., de souligner Denis Martin Chabot, qui a été journaliste à Radio-Canada durant 33 ans avant de prendre sa retraite il y a quelques années. Mais ce n'est pas tout. L'animateur s'est commis à un deuxième projet, toujours sur Canal M, une seconde émission qui porte le titre « Affirmation » et qui consiste en une série d'entrevues avec des gens qui ont contribué à la communauté LGBTQ+, comme l'ancien sénateur Serge Joyal. Cette émission est disponible en balado-diffusion à partir du 18 janvier. Et que nous réserve l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour cette nouvelle année? On va essayer de guider les gens dans ce monde dans lequel on va vivre en 2025, dans ce qu'il a d'inquiétant avec tout ce qui se passe sur la planète et les incertitudes que cela suscite, comme l'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis, entre autres sujets, de noter Denis Martin Chabot, qui a également cofondé l'OBNL Fierté littéraire. Et après la centième, est-ce qu'il y aura des modifications à l'émission? Comment s'orientera-t-elle? Je prends ça une émission à la fois, souligne l'animateur. J'entrevois une émission où les entrevues seront plus courtes, mais en même temps où l'on se focalisera sur un sujet précis et des idées maîtresses, sans s'étendre trop longtemps non plus. Idéalement, j'aimerais avoir plus de ressources et de moyens, mais Canal M nous appuie déjà passablement et je les remercie pour ça. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Canal M, c'est une organisation reconnue par l'ONU et qui privilégie des personnes qui vivent une situation marginalisante ou un handicap. C'était la centième émission de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, un texte d'André Constantin Passiour, paru le 30 janvier 2025 dans le magazine Fugue.
Une étoile montante dans tous les sens. Un texte de Maude Goyer, paru le 24 janvier 2025 dans La Presse. Les modèles féminins dans le domaine des sciences sont encore rares. Geneviève Gariepy, 37 ans, en est un de taille. Non seulement son parcours professionnel est fulgurant, mais dans ses temps libres, elle fait aussi partager sa passion aux jeunes filles et au public. Entrevue avec une ingénieure inspirante. Vous êtes ingénieur en optique. Que faites-vous au sein de l'Agence spatiale canadienne? Comment êtes-vous arrivé à ce poste? J'ai étudié en génie physique à Polytechnique Montréal et j'ai obtenu mon diplôme en 2011. J'ai enchaîné avec une maîtrise en physique à l'Université d'Ottawa et un doctorat, toujours en physique, en Écosse. J'ai terminé en 2016. J'ai travaillé chez ABB pendant 6 ans dans le domaine de l'optique spatiale. Il y a 2 ans, j'ai vu un emploi affiché en optique spatiale à l'Agence spatiale canadienne, ASC, alors j'ai postulé. Le processus a été long avec des examens techniques et des entrevues. On peut dire que j'étais au bon endroit au bon moment. J'ai occupé le poste de chef de mission pendant 1 an et demi et je suis maintenant gestionnaire du groupe optique pour le département sciences et technologies de l'ASC. J'ai une équipe de 7 personnes et nous sommes chargés de projets d'optique qui peuvent toucher, par exemple, l'observation de la Terre ou encore l'exploration spatiale. Quels aspects de votre travail vous plaisent le plus et quels sont vos plus importants défis? La partie la plus fun, ce sont les gens avec qui je travaille. Personne ne travaille seul dans ce genre de projet d'envergure. Mon équipe est remplie de gens avec beaucoup d'expertise et d'expériences variées. Ils sont compétents, motivés et passionnés. Et du côté des défis, je dirais que je passe beaucoup de temps derrière un écran. J'essaie d'équilibrer le tout dans ma vie personnelle. D'ailleurs, j'accorde beaucoup d'importance à l'équilibre travail et vie personnelle. Vous avez gagné le prix Honoris Genius, progression des femmes en génie, remis par l'Ordre des ingénieurs du Québec. C'est important d'inspirer les futures générations? J'ai moi-même déposé ma candidature pour gagner ce prix. Je pense que c'est important de reconnaître sa valeur et de prendre sa place. Et bien honnêtement, je souhaitais que ça me donne de la visibilité auprès des jeunes. J'ai fondé il y a 2 ans la section locale de Soapbox, une initiative qui vient de Londres, où on donne la parole, dans un parc en juin, à 12 de femmes qui travaillent en sciences. J'ai aussi participé l'automne dernier, en tant que porte-parole, à l'événement « Les filles et les sciences ». Je suis allée à la rencontre de filles de 3e, 4e et 5e secondaire dans 4 villes du Québec. Quel regard portez-vous sur la place qu'occupent les femmes en sciences actuellement? Ma mère était ingénieure forestière et on voit bien que tranquillement les choses changent. Il y a plus de femmes en sciences maintenant qu'il y a 30 ans. C'est quand même encore un milieu majoritairement masculin et il m'arrive d'être la seule femme dans certaines rencontres. Cela dit, je sens qu'il y a plus d'ouverture. Par exemple, à l'ASC, nous avons une présidente et des directrices. C'est inspirant. Personnellement, dans ma carrière, je n'ai jamais senti de barrière parce que j'étais une femme. La diversité, c'est bon pour tout le monde. C'était Une étoile montante dans tous les sens. Un texte de Maude Goyer, paru le 24 janvier 2025 dans La Presse.
Stéphane Fallu s'assume en vieillissant, mais se couche plus tôt. Un texte de Michel Lemieux, paru le 27 novembre 2024, dans Virage. Le monde change. Son corps aussi. À 55 ans, Stéphane Fallu nous parle avec candeur et lucidité et un brin d'humour de l'impact des années qui s'ajoutent au compteur et de notre société en pleine période de transformation. Pour ne pas se métamorphoser en vieux chialeux, dixit l'humoriste, la faculté d'adaptation est essentielle. Ça tombe bien, car l'adaptation, ça le connaît. Au fil des ans, Stéphane Fallu a trouvé sa place au sein d'un métier où il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. On a vu l'animateur à la barre de Refuge Animal pendant 8 saisons. Il co-anime sur le pouce, à zeste, mais avec Assumé, son nouveau spectacle, l'humoriste nous propose du stand-up dans la plus pure tradition. Avec ce spectacle, je suis plus assumée que jamais, avoue-t-il. Ces dernières années, on s'est excusé de beaucoup de choses. Nous avons beaucoup évolué. Nous avons la responsabilité de rester ouverts. Je suis de la première génération à s'être adaptée au changement. Celle de mon père ne l'a pas fait. Encore aujourd'hui, certains ne relèvent pas le challenge. Pourtant, il y a eu tellement de changements positifs. Mes rapports avec les enfants, le travail, ma blonde sont différents. J'aborde tous ces thèmes sous l'angle de l'humour. Entre l'homme que j'étais et celui que je suis aujourd'hui, c'est deux mondes. Et honnêtement, je préfère celui que je suis devenu. L'humoriste croit que le fait d'avoir eu deux enfants sur le tard le garde ancré dans son temps. J'avais la quarantaine lorsque je suis devenu père, confie-t-il. Je ne peux pas devenir un vieux chialeux. Mes enfants me le reprocheraient. Dans mon spectacle, je parle aussi des changements qu'on n'a pas le choix de faire si on ne veut pas vieillir seul. Le défi d'être en couple à 55 ans n'est pas le même qu'à 30 ou 40 ans. Il faut se tenir en forme, faire attention à soi. Vieillir n'est pas désagréable, mais ce n'est pas la plus belle chose au monde non plus. Pour ne pas empirer, pour l'humoriste, la cinquantaine n'a rien changé à sa vie, mais ses 55 ans se font sentir. Mes cheveux sont devenus gris, laisse-t-il tomber. Tous les morceaux que je croyais solides ont relâché un peu. Je joue au hockey, je m'entraîne 3 fois par semaine, mais ça ne change plus grand-chose, je le fais pour ne pas empirer. Il y a eu des remises en question, notamment en ce qui touche les amitiés. Vieillir implique un certain ménage dans nos habitudes. Il faut faire des mini-deuils et renoncer à ce qui n'est plus pour nous. Par exemple, je ne peux plus me coucher tard. Il m'arrive de me coucher à 9h30 le soir et me sentir profondément heureux d'être dans mon lit. Je ne dis pas que c'est plus le fun, mais je n'ai pas le choix. Il faut apprécier ce qu'on a au lieu de songer à ce qu'on n'a plus. N'en demeure pas moins qu'à 55 ans, il a des comportements de vieux monsieur, soutient-il. Par exemple, il m'arrive d'entrer dans une pièce en me demandant ce que j'étais venu y chercher. Plus je vieillis et plus je raconte ce que je fais avec beaucoup trop de détails. J'ai besoin d'un agenda pour ne pas oublier mes rendez-vous. Quand ça m'arrive, je sais pourquoi. Trop de fatigue, trop de cellulaire. En vieillissant, il faut tenir son cerveau occupé, nous dit celui qui a reçu un diagnostic de TDA, trouble déficitaire de l'attention, sur le tard. Apprendre que tu es vulnérable, ça amène de gros changements. Une maison qui porte son nom. Compte tenu de son parcours, Stéphane a de quoi être fier de son histoire. Enfant de la DPJ, une famille l'a accueilli à l'âge de 6 ans après qu'on l'ait trimballé dans 4 familles d'accueil, sans compter les oncles et les tantes qui avaient prêté main forte. Cette famille, c'est ce qui a fait toute la différence dans sa vie. Il y a eu aussi des intervenants qui m'ont donné un coup de main. Ce n'était pas un milieu sain, se rappelle-t-il, au sujet de sa famille d'origine, mais je n'ai pas vécu d'abus. Je crois que j'avais une certaine résilience. Elle faisait partie de moi. Plus jeune, j'avais beaucoup de violence en moi. Je me battais constamment. Puis, la violence s'est transformée en résilience. Je suis devenue plus calme. Heureusement, car je n'aurais pas réussi ce passage. Quand on vit ce genre de situation, il faut accepter ce qui nous arrive, regarder en avant et non en arrière. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Engagé pour la cause des jeunes de la DPJ, l'humoriste a contribué à mettre sur pied une maison qui porte son nom et qui vient en aide aux garçons qui, trop souvent, se retrouvent à la rue à leur sortie des centres jeunesse. Nous sommes à ouvrir une aile pour les filles de 17-18 ans qui sortent de la DPJ, dit-il fièrement. Beaucoup se retrouvent dans des familles malsaines ou avec un mauvais chum. Selon les statistiques, il y a plus de gars dans la rue, mais les filles vivent plus de violence. Je suis donc heureux qu'on puisse avoir ces maisons. C'est une belle cause, mais ce n'est pas la plus sexy, j'en conviens. J'ai choisi celle qui me touche personnellement et qui fait une différence dans la vie des jeunes. Leur vie n'est pas parfaite. Mais ils se trouvent des jobs et partent en appartement. Toujours humble, face à son parcours, Stéphane ne se voit pas comme un exemple pour ses jeunes. J'ai bien tourné, c'est vrai, mais je ne suis pas avec eux au quotidien. Les vrais exemples pour eux, ce sont ceux et celles qui sont sur place, qui écoutent leur joie et leur peine. Au Québec, conclut-il, nous aimons les institutions. Nous ne travaillons pas beaucoup en prévention, alors que plus tôt on peut agir, mieux c'est. C'était Stéphane Fallu s'assume en vieillissant, mais se couche plus tôt, un texte de Michel Lemieux, paru le 27 novembre 2024 dans Virage.
Des refuges où les coraux prospèrent. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 19 janvier 2025 dans La Presse. Le réchauffement des océans affecte gravement la grande barrière de corail au large de l'Australie. Mais sa vaste étendue cache des zones où les coraux résistent aux assauts climatiques, ont découvert des chercheurs. Oasis de fraîcheur. Depuis 2015, la grande barrière de corail, au nord-est de l'Australie, a connu 5 des 6 températures les plus chaudes depuis 400 ans. Et chaque fois, elle a perdu des centaines de kilomètres carrés de coraux par blanchissement. Comme le célèbre village gaulois d'Astérix, 2 refuges de cette grande barrière résistent au réchauffement planétaire. Les portions nord et sud sont 4 degrés Celsius plus fraîches que la partie centrale. Il semble que le refuge le plus au sud survivra au prochain siècle, selon le géologue Benjamin Petrick de l'université Christian Albrecht en Allemagne, qui a analysé des échantillons des fonds océaniques de la mer de Corail qui remontent à 900 000 ans. Dans la revue Science Advances, publié au début de décembre 2024. Il montre que la Grande Barrière est apparue il y a 700 000 ans, quand la température de cette région du Pacifique est passée de 26 degrés Celsius à 28 degrés Celsius. Il semble qu'il y ait une zone très étroite de croissance maximale des coraux, entre 28 degrés Celsius et 30 degrés Celsius, dit M. Petrick. Cela signifie que les refuges plus frais vont connaître une croissance plus rapide de leurs coraux dans les prochaines décennies. La température de ces côtes australiennes est restée constante pendant 700 000 ans, avec des variations de moins de 4 degrés Celsius. Comment est-ce possible malgré les glaciations? Parce qu'il y a un réservoir d'eau chaude. Le bassin chaud d'Indo-Pacifique, qui s'étend de l'est de l'Australie jusqu'à l'Asie du Sud-Est, explique le géologue de la ville allemande de Kiel. Ce sont les eaux les plus chaudes de toute la planète. Qu'est-ce que le blanchissement du corail? Quand il fait trop chaud, les algues qui donnent leur couleur aux coraux, appelées zooxanthelles, sont expulsées. Au lieu de fournir de l'oxygène à leur hôte, ces algues se mettent à produire des toxines. Le système immunitaire corallien réagit en mettant un terme à leur relation symbiotique. Le corail ne meurt pas nécessairement après avoir blanchi, mais il est plus fragile, notamment parce qu'il manque de nutriments fournis par les algues. Ces dernières se nourrissent par photosynthèse de CO2 généré par le corail et présent dans l'eau, ce qui produit de l'oxygène. La maladie, la pollution et une augmentation des rayons UV du soleil peuvent également causer un blanchissement du corail, tout comme des eaux trop froides, ce qui limite la profondeur maximale des récifs de corail. Les remontées. Les refuges frais de la Grande Barrière doivent leur existence à des remontées d'eau des profondeurs. Une autre chercheuse australienne, Chai Jiao Sun, de l'Organisation de recherche industrielle et scientifique du Commonwealth, a fait l'exercice inverse de M. Petrick. Elle a simulé ce qui arrivera à l'avenir aux remontées d'eau dans ces deux refuges. Elle conclut : les refuges devraient rester au moins 1 degré Celsius plus frais que la moyenne de la Grande Barrière jusqu'au moins aux années 2080. Les modèles climatiques utilisés par Mme Sun sont tellement complexes qu'elle a seulement pu financer 20 ans de simulation sur des superordinateurs. Entre 2045 et 2055, et entre 2075 et 2085. Dans les deux cas, même avec les pires scénarios climatiques, les refuges demeurent plus frais que le reste de la Grande Barrière, note l'océanographe de Perth, qui a publié ses résultats en novembre dans la revue Science Advances. Vous écoutez « Des refuges où les coraux prospèrent », un texte de Mathieu Perrault paru le 19 janvier 2025 dans La Presse. La profondeur. Une plus faible croissance des coraux dans des eaux trop chaudes pourrait aussi affecter leur capacité à suivre la hausse du niveau de la mer. Les coraux ne doivent pas être trop profonds pour avoir suffisamment de lumière, souligne M. Petrick. Selon certains chercheurs, les coraux plus profonds, des espèces nécessitant moins de lumière, pourraient aussi constituer des refuges parce que l'eau profonde est plus fraîche. Mais il faut qu'ils aient une croissance assez rapide pour suivre la hausse du niveau de la mer, ce qui reste à déterminer parce qu'ils sont moins bien étudiés, précise-t-il. Les autres questions importantes à résoudre au sujet des refuges dans la Grande Barrière portent sur celui du Nord, près de Papouasie-Nouvelle-Guinée. On le connaît mal, admet M. Petrick. On ne sait pas exactement pourquoi les eaux sont plus froides. Une question fondamentale est l'impact des changements dans la circulation océanique mondiale sur les remontées d'eau qui créent ces refuges, dit Mme Sun. Il y a encore de l'incertitude sur la circulation océanique. Elle veut aussi comprendre pourquoi un blanchissement a eu lieu en 2024 dans le refuge du sud de la Grande Barrière. Les deux refuges représente de 15 % à 20 % de la superficie de la Grande Barrière. Les greffes. Ces refuges permettent aux coraux de repeupler les régions centrales de la Grande Barrière si elles sont décimées par les coups de chaleur. Ils serviront aussi de source de greffe, une stratégie prise très au sérieux par le gouvernement australien. En novembre 2024, des chercheurs israéliens qui voulaient sauver les coraux des mers Méditerranée et Rouge ont justement démontré une manière plus efficace de greffer des coraux, en utilisant des greffons plus grands. L'efficacité des greffes est augmentée de manière spectaculaire quand on utilise des communautés de coraux plutôt que des individus isolés, selon Nathalie Levy de l'Université Bar-Hillel en Israël. Pour la même quantité de matière biologique transplantée, les résultats sont bien meilleurs avec des communautés entières, souligne Nathalie Levy, qui est l'auteur principal de l'étude publiée en novembre 2024 dans la revue Nature Communications. Souvent, les greffes sont composées de larves de coraux saupoudrées dans les fonds marins. Si les greffons sont cultivés dans des aquariums avant d'être introduits dans les coraux endommagés, il faut prévoir une structure semblable à la nature, assez grande. Dans le cas des chercheurs israéliens, il s'agissait de tuiles de céramique texturées de 25 cm de côté. Les drones. La technologie autonome sous-marine pourrait décupler les efforts des protecteurs des coraux. On peut beaucoup plus facilement prendre des échantillons, dit Mme Levy. De son côté, l'Université de technologie du Queensland teste, depuis une demi-douzaine d'années, le LarvaBot, un drone qui peut semer par lui-même des centaines de milliers de larves de coraux directement au-dessus de la Grande Barrière. En savoir plus. 4,2 milliards de dollars australiens. Fonds consacrés à la protection et à la restauration de la Grande Barrière de corail par le gouvernement australien entre 2014 et 2014.